Avant de quitter pour une randonnée, je me pose toujours la question. Sommes-nous prêts? Vraiment prêts? Prêts à partir avec mon sac à dos rempli, mais aussi prêts à vivre une expérience. Parce que oui, je fais de la randonnée pour me dépasser, mais aussi pour découvrir et vivre une immersion en nature. Il n'y a rien comme respirer l'air frais en plein cœur de la forêt boréale, ou de s'arrêter entre deux pins, de lever les yeux pour voir entre les branches un bec croisé passer par là, ou même arriver au sommet, avec le vent qui souffle, et voir s'étendre tout autour les montagnes jusqu'à l'horizon. La nature me surprend à chaque fois, m'émerveille même. La pratique du plein air, et spécialement la randonnée en montagne, pour moi, c'est sacré. Je m'appelle Philippe, je suis éducateur naturaliste pour guêpes, et je fais de la randonnée depuis que je suis tout petit. Les sentiers, ça me connaît. Je propose de vous partager quelques secrets de randonnée et les lignes directrices que tout bon randonneur doit connaître pour vivre une expérience hors du commun à chaque excursion en nature. Être un randonneur, ça commence avant même d'avoir mis le pied dehors. Pour profiter du maximum de sa rando, il faut être préparé. Il faut évidemment avoir tout son matériel, que ce soit pour une randonnée de quelques heures ou une excursion de plusieurs jours. Bonnes bottes, chapeaux, vêtements de pluie, gourdes, collations et lunch sont des essentiels. Je préfère aussi avoir une carte imprimée du sentier lorsque c'est possible. C'est une très bonne police d'assurance si mon téléphone me lâche en cours de route. Il faut choisir sa randonnée pour qu'elle soit adaptée à notre condition physique, mais aussi à nos intérêts. Je fais toujours une petite recherche sur les milieux que je vais croiser et les animaux que je pourrais observer. J'ai aussi toujours apprécié observer les plantes, mais je me rends compte que je les apprécie encore plus lorsque je les connais et même que je les reconnais sur le terrain. Il faut aussi prendre le temps de planifier l'aller et le retour. Choisir son heure de départ en fonction de la durée de la rando, mais aussi de la météo. Évitons les journées orageuses. Et partons tôt. L'ascension est plus facile avec la fraîcheur du matin qu'en début d'après-midi, quand le soleil est à son zénith. Autre point important, vérifions l'état des sentiers et leur accessibilité avant de partir. Il suffit de se renseigner auprès des gestionnaires de site. Ça évite des mauvaises surprises. Vaut mieux prévenir, croyez-moi. Et j'allais oublier, un essentiel à mettre dans votre sac à dos et qui est trop souvent laissé derrière, c'est un sac à poubelle. Juste le glisser dans une poche avant de partir, ça fera toute la différence en cours de route. Astuce de pro, profitez de tous les écosystèmes en route. L'objectif, c'est bien sûr le sommet, mais les différents milieux le long du sentier sont tout aussi intéressants à découvrir. Les couleurs de la friche en fleurs en bas de la montagne, le ruisseau qui dévale rapidement la pente, l'odeur de la cédrière à mi-parcours, tout ça, ça vaut la peine. Je conseille même de garder une place dans son sac pour une petite paire de jumelles, un cherche-étoile, une loupe même. Et si le cœur nous en dit, pourquoi pas des guides d'identification? Pour alléger son sac, on peut aussi utiliser des applications très cool pour identifier les oiseaux, les plantes et même les champignons. C'est vraiment pratique, mais si on a du réseau sur la montagne, bien sûr. Donc oui, une randonnée en montagne, c'est de grimper jusqu'au sommet. Mais le fun commence bien avant d'entrer en forêt. Un randonneur préparé, c'est un randonneur heureux. Un autre mot d'ordre pour être un bon randonneur, c'est de respecter la nature. Ça paraît bien simple, me direz-vous. En vérité, parfois, on pose des gestes qui nous paraissent inoffensifs, mais qui peuvent avoir des impacts sur le milieu qu'on visite. Souvenons-nous, on s'invite à la montagne et elle nous accueille gracieusement. Je vous donne un exemple. On s'installe pour camper, on ramasse des bouts de bois pour faire un feu, rien de scandaleux. Mais le bout de bois, même s'il est mort, peu importe sa grosseur, il y a une fonction dans l'écosystème. C'est un abri pour des insectes, des araignées et des salamandres. Il nourrit des bestioles. Un oiseau pourrait même l'utiliser pour faire son nid. Saviez-vous que les tamias rayés utilisent le bois mort au sol comme des autoroutes? Dans leur déplacement, ça leur garantit des cachettes pour éviter les prédateurs. Prélever les morceaux de bois mort, à long terme, ça a un impact. Cette ressource, elle finit par diminuer et ça peut affecter l'équilibre du milieu. Pourquoi pas utiliser un beau réchaud plutôt qu'un feu de camp? Je vous parle de bois mort, mais il en va de soi que la végétation vivante devrait rester intacte. Même pour s'alimenter, il faut faire une cueillette responsable. Les petits bleuets sauvages qu'on découvre au détour du sentier, ils sont irrésistibles, je sais. On peut en prendre quelques-uns aux abords du chemin, mais pas tous. On n'est pas les seuls à vouloir en manger. Les ours noirs, les oiseaux et les petits mammifères ont besoin des bleuets bien plus que nous. Souvenons-nous, on a un snack dans notre sac à dos. Oh, et en parlant de nourriture, j'ai des dizaines d'histoires où j'ai été témoin de visiteurs qui nourrissent des animaux sauvages. Quand on fait ça, on apprend aux animaux que l'humain, dans le fond, c'est pas dangereux. Mais la vérité, c'est qu'il faut éviter de créer cette habitude chez les animaux en restant loin, en les observant à distance et en évitant de les attirer et de les rendre dépendants de nous. Comme ça, la nature reste sauvage et nous, on reste en sécurité. Notre bartend, c'est pour nous, pas pour les oiseaux. En bons randonneurs que nous sommes, on sait qu'il faut rester dans les sentiers aménagés. Ça va de soi. Comme ça, on évite de piétiner la végétation, aussi petite soit-elle. La belle fougère, le quatre-temps en fleurs et même le lichen vont être très reconnaissants de ne pas se faire écraser. Des fois, c'est vrai que c'est tentant de couper court à travers un sentier sinueux, mais la courbe est là pour nous faciliter l'ascension. Profitons donc de cette belle attention et qui sait, peut-être une belle surprise nous attend au prochain lacet. Parfois même, le sentier n'est pas facile à repérer, comme sur les sommets dénudés, par exemple. Restons attentifs à la signalisation pour limiter l'impact de nos pas sur le milieu. S'il n'y a pas de signalisation, eh bien, faisons-nous confiance. Suivons la topographie du milieu et faisons attention où on met les pieds. C'est la même chose quand on campe. Pour installer sa tente, il faut choisir un site qui soit approprié ou même désigné. Le tapis de lichen sur la roche au sommet, il n'est pas là pour qu'on se couche dessus, même s'il a l'air très confortable. C'est mieux de descendre sous la ligne de la cime des arbres pour camper. Les surfaces sont plus durables pour installer notre tente. Mais rien n'empêche de monter, prendre son café au sommet au petit matin. Il n'y a rien de mieux. Et finalement, vous vous souvenez du sac de poubelle qu'on a mis dans notre sac à dos avant de partir? Il nous permet de repartir avec tous nos déchets. Nos emballages de bartende, nos papiers de toilette et même notre cœur de pomme. Et oui, même les déchets qui se décomposent doivent repartir. La montagne, ce n'est pas leur place. On ne voudrait pas voir des pommiers pousser en plein milieu des conifères. Je conseille donc de mettre son cœur de pomme dans le compostage une fois à la maison. C'est là sa véritable place. On dit en jargon de randonnée qu'on fait des expéditions sans trace. C'est-à-dire qu'on laisse aucun indice de son passage. On laisse la nature comme on l'a trouvée et comme on veut la retrouver lors de notre prochaine randonnée. Je vais vous laisser poursuivre votre route sur quelques derniers conseils pratiques pour votre randonnée. Il existe des règles de bienséance non écrites quand on est en nature. Évidemment, il faut respecter le milieu qu'on visite, mais pourquoi pas respecter aussi les autres visiteurs, parce que nous ne serons probablement pas les seuls sur les sentiers. Un petit bonjour quand on croise un autre randonneur, c'est toujours bienvenu. Et dans un sentier étroit, on essaie de laisser la priorité à celui qui monte, histoire qu'il garde son rythme d'ascension, c'est toujours apprécié. Ne laissons rien derrière. Les autres aussi veulent profiter de la nature sauvage telle qu'elle. Prenons des pauses où le sentier est plus large, plutôt que dans une talle de jeunes fougères ou sur un sol couvert de mousse. Et ça permet de partager l'espace avec les autres. Et selon mon expérience, pour pouvoir faire des observations extraordinaires, vaut mieux rester calme et discret en forêt. Tout le monde va en profiter. Et tant qu'on y est, c'est aussi important de reconnaître le travail du personnel des lieux qu'on visite, comme celui des zecs et des parcs. On l'oublie parfois, mais c'est grâce à eux que l'on peut pratiquer notre activité préférée et être un bon randonneur. Et en observant les lignes directrices dont nous venons de parler, on fait honneur à leur travail. Finalement, je veux simplement rappeler qu'en randonnée, il faut prendre le temps d'observer le milieu qui nous entoure. Et pas seulement la vue exceptionnelle une fois arrivé au sommet. Observons les changements de la nature, son évolution le long du sentier, les écosystèmes qui se suivent, s'entrecroisent, les peuplements différents, les paysages changeants. C'est ça la beauté de la randonnée. Faire le plein de nature du début à la fin. Je suis certain que si nous gardons en tête ces trucs et conseils, notre visite en montagne sera réussie. Et qu'à peine descendus, nous serons déjà en train de planifier notre prochaine randonnée pour encore et encore profiter de la nature comme de bons randonneurs.